Bienvenue à tous pour cette seconde conférence donc, de notre cycle consacré cette année à Après la croissance. Cette après-croissance qui est une figure finalement qui est relativement invigorable pour l'instant. Et que Camille Desjardins, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, comme vous le savez, en cas du CEPEX, nous apprécions beaucoup mettre en avant les jeunes pousses prometteuses. Et donc, nous souhaitons à Camille ce plein succès, notamment aujourd'hui, qui va nous parler de l'état stationnaire. Donc, Camille est professeure de philosophie au lycée, elle est doctorante pour l'instant. Je vais rapidement lui laisser la parole, mais je voudrais ajouter que notre conférence a lieu donc, en partenariat avec Etopia. Et Etopia organise demain avec Oikos, demain 26 avril, l'Ecopolis, donc, qui aura lieu au CAI Theater, et dans le cadre de cette journée, donc, qui va rassembler beaucoup de penseurs européens sur le thème de l'écologie. On va discuter notamment de la nouvelle monnaie, mais aussi de l'économie stationnaire. Eh bien, Camille Desjardins interviendra également demain dans le cadre d'un débat en début d'avril. Je te laisse la parole.
Merci beaucoup, Martin. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que c'est bon? C'est satisfaisant? Très bien. Donc, nous allons parler aujourd'hui de l'état stationnaire. Notre tout jeune 21e siècle témoigne d'une préoccupation croissante aux enjeux environnementaux. Dans les pays occidentalisés, dans les pays appelés développés, c'est devenu une évidence de dire que l'on assiste aujourd'hui à une remise en question toujours plus généralisée de la politique et du principe même de croissance économique, suivie depuis environ deux siècles par l'Occident, et poursuivi de manière exacerbée à l'échelle globale depuis maintenant une soixantaine, voire 70 ans. Cette mise à l'honneur nouvelle de la thématique des limites de la croissance et de l'empreinte préjudiciable de l'homme sur son environnement se répand dans des milieux de plus en plus diversifiés, et ce, quelle que soit l'étiquette politique ou idéologique revendiquée par les militants, par les chercheurs qui s'en emparent, et l'approfondissement de la question à l'aide de modèles en constant perfectionnement concentre les travaux d'une frange de plus en plus importante de chercheurs en économie, en écologie, dans le but de fournir une base scientifique et technique, en un mot de nouveaux paradigmes appuyés par de nouveaux modèles à la réflexion politique et morale. Cet engouement récent, on le doit à plusieurs raisons, semble-t-il. Les premiers facteurs sont bien évidemment économiques et obnubilent l'actualité. Le modèle de croissance occidentale tel que nous le connaissons, et ce de manière flagrante au moins depuis ce qu'on a appelé la crise de 2008, apparaît comme condamné ou en tout cas en plein essoufflement. Le fait est très bien documenté, je ferai donc le mentionner, pas le traiter aujourd'hui vraiment, et j'en profite d'ailleurs pour annoncer aujourd'hui la conférence de ce cycle qui aura lieu le 6 juin en présence de messieurs Jérôme Batou et Emmanuel Constantin, pour approfondir ce point de l'épuisement de la croissance. S'ajoutent à cela des facteurs proprement physiques et biologiques. Les conséquences néfastes de l'économie humaine sur les écosystèmes planétaires deviennent de plus en plus tangibles, deviennent de plus en plus visibles, et leur existence commence à intéresser de plus en plus les profanes qui commencent à être touchés dans leur expérience quotidienne par ces dérèglements. Par exemple, sécheresses, inondations, catastrophes naturelles, etc. Et enfin, entre en jeu des facteurs proprement psychologiques et sociaux en constant développement, impulsés au tournant des Trente Glorieuses par des mouvements alors très minoritaires, voire marginaux. La prise de conscience écologique s'est élargie et trouve désormais un relais croissant dans les programmes d'éducation et d'information, au point que maintenant, il devient presque transgressif de ne plus prêter l'oreille à ceux qu'on appelle les Cassandres de l'écologie, qui sont désormais parfois assimilés à un certain politiquement correct, alors même que leur réflexion prend une ampleur nouvelle. Et c'est pas actuel, mais on peut citer des best-of de citations optimistes comme celle-ci. Il n'est évidemment pas ici question d'aborder la question de l'écologie, du développement de l'écologie dans son ensemble. Mais ce que j'aimerais considérer avec vous aujourd'hui, c'est le développement et la pertinence actuelle d'un concept précis qui est ressorti principalement au domaine économique, mais aussi marginalement au domaine politique et moral, qui est la perspective de l'État stationnaire, soit en anglais stationary state ou steady state, ou steady state economy. En effet, tout récemment, la réédition du 40e anniversaire du rapport Meadows a fourni l'occasion, donc ce rapport-là, a fourni l'occasion de dresser un bilan de la littérature consacrée à l'épuisement de la croissance, à l'épuisement structurel de cette croissance économique telle que nous la connaissons, et surtout aux solutions économiques et sociales en termes d'état stationnaire, même si les auteurs du présent rapport l'appellent parfois développement soutenable, plus que développement durable. Donc, la conférence d'aujourd'hui, elle vise à clarifier ce concept d'état stationnaire, en économie, mais aussi en théorie politique, voire en philosophie pratique, depuis ses origines au XIXe siècle, jusqu'à son occurrence dans le débat contemporain, et j'espère avec deux perspectives, deux optiques principales. La première qui serait d'essayer d'épurer le débat des étiquettes parfois épidermiques que l'on peut entendre dans les débats à ce sujet, les pessimistes contre les optimistes, les réactionnaires contre les progressistes, les pragmatiques ou alors les cyniques pour leurs opposants contre les utopistes, etc. Et puis la deuxième, c'est donc de prendre au sérieux l'alternative qui semble se rapprocher sans cesse face à l'épuisement de la croissance, un état stationnaire subi, aussi appelé effondrement, ou un état stationnaire choisi, concerté, délibéré, qui peut se révéler une nouvelle perspective de progrès humain. Donc pour commencer, je reviendrai sur la généalogie et la définition de ce concept d'état stationnaire depuis ses origines, et puis je rappellerai brièvement les raisons qui invitent aujourd'hui plus que jamais à envisager la perspective de cet état stationnaire, et ensuite j'essaierai d'expliciter les principes, les contours, les fins de cet état stationnaire et son positionnement idéologique dans le débat. Ça va ? Donc, premièrement, donc, généalogie, définition de ce concept d'état stationnaire. Donc, le concept d'état stationnaire, même s'il n'est pas explicitement nommé chez lui, prend ses racines dans les travaux de Thomas Malthus, qui est donc pasteur anglican, mais aussi, bien sûr, économiste contemporain de la révolution industrielle anglaise. Dans son célèbre essai « Essai sur le principe de population » qui paraît en 1798, il réagit aux positions de l'écrivain William Godwin qui imagine une situation utopique d'amélioration croissante, de prospérité croissante pour une population croissante. Et Malthus, qui était jusque-là disciple de Godwin, va réagir, va s'opposer à cette perspective et va devenir le premier théoricien des rendements décroissants de la Terre. Et ce faisant, il se fait le premier théoricien, premièrement, de la finitude des ressources naturelles terrestres, c'est-à-dire d'un épuisement absolu des ressources à long terme, et par ailleurs, des limites naturelles à la croissance, notamment la croissance démographique, dans une condition de croissance, des limites naturelles à la croissance démographique dans une condition de rendement décroissant d'une terre donnée, c'est-à-dire un épuisement relatif des ressources face à une population croissante. Alors, Malthus postule assez arbitrairement, il est vrai, et c'est ce qui lui sera fatalement reproché par la suite, par tous ses successeurs, que la population croît de manière géométrique, c'est-à-dire exponentielle, alors que les richesses croîtraient de manière arithmétique, c'est-à-dire linéaire. Du coup, il prévoit que l'humanité va rapidement toucher à une pénurie de ressources, et il voit dans la misère, notamment la misère ouvrière de son siècle, les premiers signes de cette pénurie. Cette pénurie, selon lui, ne peut que rétablir douloureusement l'équilibre antérieur population sur ressources, et donc entraîner un retour à la stagnation par une violente récession. Et c'est pourquoi, en tant que pasteur, il encourage le recours à ce qu'il appelle la contrainte morale, autrement dit la limitation des naissances, pour éviter a priori la surpopulation et la paupérisation, et éviter a posteriori la régulation naturelle de la population par la misère et par la surmortalité des plus pauvres. Donc, Malthus, du fait de l'inexactitude de ses calculs, même si ce n'est pas le cœur de sa démonstration, et d'autres économistes le rappelleront, comme Mill, et du fait aussi de ses préconisations assez austères, puisque c'est lui qui a donné son nom à ce qu'on appelle désormais les politiques malthusiennes, avec la connotation négative que l'on sait, Malthus et tout principe de limitation de la population deviennent rapidement une sorte de repoussoir. Il devient l'incarnation d'une sorte de pessimisme moralisateur s'opposant au libre développement humain, pour ne pas dire s'opposant directement à la vie. Cependant, son œuvre témoigne d'une première prise de conscience de l'existence de limites structurelles à l'expansion de la population et à l'expansion de l'économie humaine. Et cette première prise de conscience va fortement influencer tous les théoriciens ultérieurs, au premier chef desquels Ricardo, dont on va parler, mais aussi par exemple Darwin, qui va également s'inspirer de son principe d'autorégulation de la population par la pauvreté pour formaliser sa théorie de la sélection naturelle, et puis Keynes, que l'on connaît mieux au XXe siècle. Deuxième théoricien qui, lui, va introduire précisément, nommément, le concept d'état stationnaire, c'est Ricardo. Ricardo, dans ses principes de l'économie politique et de l'impôt, qui paraissent en 1821. Il reprend globalement les théories de Malthus, et c'est lui qui introduit donc explicitement le concept d'état stationnaire. Chez lui, l'état stationnaire est une situation économique subie et néfaste, qui est due, elle aussi, enfin chez Ricardo aussi, au principe des rendements décroissants de la Terre, dont Ricardo va devenir le théoricien de référence. Chez Ricardo, en fait, pour expliciter un petit peu ce principe des rendements décroissants de la Terre, le principe est le suivant. Les meilleures terres agricoles sont celles qui sont exploitées en priorité. Une fois que celles-ci sont exploitées, quand leur rendement spontanément commence à baisser, car les sols naturellement produisent moins, ou alors quand la population s'accroît, on assiste à une raréfaction de ces terres arables de bonne qualité, ce qui pousse à mettre en culture des terres arables de moindre qualité. Et cela a plusieurs conséquences délétères selon lui. Premièrement, la différence de qualité entre les terres cultivées crée une possibilité de rente foncière pour les propriétaires des meilleures terres, et par suite, à mesure que la plupart des terres sont cultivées, une augmentation croissante de cette rente foncière. Du fait de cette rente, et aussi du fait de la nécessité d'amender ces terres de moindre qualité, produire coûte plus cher, il y a hausse des prix des denrées agricoles, il y a hausse des prix des denrées alimentaires en général, il y a aussi hausse des salaires, il y a baisse généralisée des profits, pardon, et de ce fait, l'économie entre en récession. Et du fait de cette entrée en récession, on va aboutir, on va encore une fois, dans la douleur, revenir à une sorte d'équilibre tel qu'il y en avait auparavant. Et on peut aussi noter que chez Ricardo, il y a une baisse globale et durable de la productivité agricole d'un pays, et on peut donc envisager, il ne le dit pas précisément, mais on peut déjà essayer d'extrapoler en disant qu'il y aurait in fine une productivité nulle de certaines terres, donc une limite absolue à la production. Donc, parce qu'il apparaît une rente foncière, et parce qu'il faut sans cesse amender les terres qui sont toujours d'une qualité décroissante, produire et se nourrir coûte toujours plus cher. Donc, si on combine cette loi des rendements décroissants avec une population croissante, forcément, il y aura une récession pour entraîner un retour d'équilibre entre une certaine offre et une certaine demande. Et chez Ricardo, état stationnaire désigne cet état d'équilibre. Donc, pour Ricardo, l'état stationnaire s'est présenté comme une nécessité structurelle cyclique qui apparaît nécessairement entre deux phases de croissance de la production et de la population. Pourquoi une nécessité cyclique et pourquoi pas une nécessité finale ou absolue ? Parce qu'il y a des moyens de la journée, il y a des moyens de sortir ou de repousser ce retour à un certain état stationnaire. Et pour ajourner ou mettre fin à cet état, Ricardo préconise l'amélioration de la productivité par les innovations techniques. Par exemple, pensez aux intrants, aux engins agricoles plus perfectionnés, etc. Et par ailleurs, l'ouverture du commerce international en lien avec la théorie qu'on connaît de Ricardo des avantages comparatifs. Donc, encore une fois, une vision extrêmement sombre de l'état stationnaire qui n'est en fait qu'un rééquilibrage brutal de l'économie à la suite d'excès de demande ou de pénurie. Donc, il faut attendre les principes d'économie politique de John Stuart Mill qui arrivent en 1848 pour rompre avec cette vision purement négative de l'état stationnaire. Et je ne vous cache pas que c'est pour cela que je passerai un petit peu plus de temps sur l'exposé de la théorie millienne. Mill est d'abord le disciple de Ricardo. Il reprend donc sa théorie, mais il va infléchir cette conception de l'état stationnaire et il va cesser d'en faire uniquement un repoussoir. Les principes d'économie politique que je mentionnais à l'instant sont une somme économique gigantesque, aujourd'hui méconnue, mais il faut savoir qu'elle constituera la bible économique de toute la deuxième moitié du XIXe siècle. Elle est aujourd'hui un petit peu assez sous silence, mais Mill est le grand économiste de la deuxième moitié du XIXe. Et, par chance, il est le premier économiste à théoriser l'état stationnaire sous deux aspects, que je vais donc désigner ici par état stationnaire spontané ou subi d'un côté, et état stationnaire délibéré ou choisi de l'autre. Et on peut remarquer que ces deux dimensions correspondent aux deux sens de l'adjectif nécessaire, ce qui est fatal, ce qui est inéluctable d'un côté, et puis ce qui est souhaitable, voire indispensable de l'autre. Premier sens, état stationnaire subi. Ici, Mill reprend Ricardo et Malthus avant lui, et il théorise qu'il y a une fin nécessaire à toute période de croissance de l'économie. La limitation des terres arables en particulier, des ressources naturelles en général, et le principe des rendements décroissants de la terre qu'il tient également pour acquis, mène nécessairement à des périodes de stagnation ou de récession de l'économie. Je vais vous lire ce qu'il écrit. Il écrit « La terre diffère des autres éléments de la production, le travail et le capital, en ce qu'elle n'est pas susceptible d'un accroissement indéfini. Il est évident en même temps que la quantité de produits qu'on peut obtenir d'une portion de terre donnée n'est pas indéfinie. Cette limitation dans la quantité de terre et dans sa productivité sont les véritables limites à l'accroissement de la production. » De ce fait, ses conclusions sont malthusiennes. Je le cite encore, « C'est l'avarice de la nature et non l'injustice de la société » qui est la cause du châtiment attaché à l'excès de population. Donc, chez lui, comme chez ses prédécesseurs, dans les premières occurrences du mot « état stationnaire » dans ses principes d'économie politique, c'est un état qui est présenté comme spontané et qui est aussi une situation cyclique qui s'impose au terme d'une certaine période de croissance jusqu'à ce que des innovations, des découvertes ou des inventions impulsent une nouvelle phase de croissance. Cette période de croissance est appelée chez Mill état progressif, en opposition à état stationnaire, mais il va bien distinguer ce qu'il appelle état progressif de ce qu'il va appeler par ailleurs progrès, qui constitue selon lui une véritable amélioration des quantités de vie, de la qualité de vie, pardon, et justement ne nécessite pas nécessairement une amélioration, une augmentation des quantités de richesse, comme nous allons le voir. Mais attention tout de même, innovation de Mill par rapport à Ricardo, même si il reprend fortement sa théorie, c'est que Mill envisage toutefois qu'au terme de plusieurs cycles, croissance, stagnation, croissance, stagnation, l'humanité va finir par buter sur les limites ultimes des ressources terrestres. Comme il le dit, depuis toujours, les économistes ont dû entrevoir plus ou moins distinctement que l'accroissement de la richesse n'est pas sans limite, qu'à la fin de ce qu'ils appellent l'état progressif se trouve l'état stationnaire, que tout progrès de la richesse ne fait que le reporter et que chaque pas en avant nous en rapproche, écrit-il. Et en plus, c'est un paradoxe bien connu des économistes classiques et qui est une conséquence directe des rendements décroissants théorisés par Ricardo, qui est que pour satisfaire la demande d'une population croissante, on va recourir à des améliorations de la productivité, c'est-à-dire demander plus de la même terre, et cette hausse de productivité accélère d'autant l'épuisement des ressources, car finalement, les ressources ne sont pas illimitées. Donc Mill a le mérite d'avoir élargi l'intuition de la limitation naturelle de toutes les richesses qu'on pouvait trouver chez Malthus et que Ricardo essaye de contourner en ne faisant que théoriser des moyens d'ajourner et de reporter l'état stationnaire. Et il a donc le mérite d'avoir élargi cette intuition à l'ensemble des ressources terrestres et à un terme final à la croissance humaine possible. Mais, même s'il dit que quoi que l'homme produise, nous savons que des limites existent, dit-il, à toute production, à toute croissance, pour lui, ce terme fatal, final, demeure assez éloigné. C'est une épée de Damoclès qui continue de nous menacer chaque fois que nous, que nous croissons, mais lui, il n'arrive pas à entrevoir le caractère urgent d'une limitation, nécessairement. Pour lui, ce terme est tout de même hypothétique, pour ne pas dire asymptotique. Dernier point sur cet état stationnaire subi que Mill théorise à la suite de Ricardo, c'est que, comme il le fait remarquer, le problème de cet état stationnaire subi, c'est que c'est un état foncièrement inégalitaire. Avec une somme de richesses et de production donnée, bien que le capital total n'augmente pas, écrit-il, certains s'enrichissent et d'autres s'appauvrissent. En effet, les détenteurs initiaux du capital auront les moyens de l'augmenter en rachetant les autres, tandis que ceux qui étaient au départ les plus pauvres ne pourront que s'appauvrir encore. Et pour parenthèse, je peux vous signaler que dans son récent ouvrage « Le capital au XXIe siècle », Thomas Piketty rappelle quelque chose de similaire. Il rappelle que la tendance spontanée de toute économie capitaliste libérale est à la concentration des capitaux et au creusement des inégalités. Seulement, quand il y a croissance globale de la quantité de richesse, la croissance générale peut rendre cette concentration plus tolérable aux plus pauvres, car ils s'enrichissent tout de même. Ce n'est plus le cas dans un état économique stationnaire. Donc, ainsi conçu comme fatal, comme subi, l'état stationnaire est conforme à la vision très noire, très négative de Ricardo. C'est un état indésirable, inégalitaire, qui doit être ajourné au maximum. Mais Mill ne s'arrête pas là, et il est aussi le théoricien d'un état stationnaire choisi. Il ajoute, à la suite de ce que je citais à l'instant, c'est-à-dire le fait que la perspective de l'état stationnaire était nécessaire au terme de la croissance, il ajoute l'esquisse d'un plaidoyer pour l'état stationnaire que je pense que je ne vais pas résister à la tentation de vous lire dans le texte. Il écrit, toujours dans les principes d'économie politique, mais à un autre endroit, faut savoir que c'est assez volumineux. Cette impossibilité d'échapper après tout à l'état stationnaire a dû présenter aux économistes des deux dernières générations une perspective désagréable et peu encourageante, car la tendance de leurs écrits est de placer dans l'état progressif, et dans l'état progressif seulement, tout ce qui est économiquement désirable. Pour moi, au contraire, je suis portée à croire qu'en somme, il serait bien préférable à notre condition actuelle. Il continue « Je ne vois pas pourquoi il y aurait lieu de se féliciter de ce que des individus, déjà plus riches qu'il n'ait besoin, double la faculté de consommer des choses qui ne leur procurent que peu ou point de plaisir, autrement que comme signe de richesse. Ou de ce qu'un plus grand nombre d'individus passent chaque année de la classe moyenne dans la classe riche, ou de la classe des riches occupés dans celle des riches oisifs. C'est seulement dans les pays arriérés que l'accroissement de la production a encore quelque importance. Dans ceux qui sont plus avancés, on a bien plus besoin d'une distribution meilleure, dont la condition indispensable est une restriction du principe de population. » Et il conclut « Si la Terre doit perdre une grande partie de l'agrément qu'elle doit à des objets... Pardon. Si la Terre doit perdre une grande partie de l'agrément qu'elle doit à des objets que détruirait l'accroissement continu de la richesse et de la population, et cela seulement pour nourrir une population plus considérable, mais qui ne serait ni meilleure ni plus heureuse, j'espère sincèrement pour la postérité qu'elle se contentera de l'état stationnaire longtemps avant d'y être forcée par la nécessité. » Donc, Mill est ainsi le premier promoteur d'un état économique stationnaire adopté de manière délibérée et surtout de manière anticipée par rapport aux limites de la capacité de la planète, sans renoncer pour autant, et c'est très important, à ce qu'il appelle les grâces de la vie ou encore l'art de vivre, dont il est par ailleurs un théoricien assez important. Donc on peut même aller plus loin en disant que Mill voit véritablement dans l'état stationnaire délibérément mis en place la condition d'un tel progrès, la condition d'un tel art de vivre. On y reviendra. En tout cas, sa théorie est novatrice, elle est extrêmement inspirante, et cette idée d'une limitation délibérée de la production et de la consommation humaine au service d'un développement non pas quantitatif, mais qualitatif des conditions de vie, va se développer peu à peu, mais timidement dans un premier temps, au siècle suivant. On peut mentionner Keynes, qui reprend à son compte l'aspiration à une croissance qualitative et non quantitative, avec la volonté de subordonner ou de resubordonner l'économie à des critères de bonheur plus élevés selon des idéaux non matérialistes, puisque Keynes est l'un des pourfendeurs de ce qu'il appelle l'amour de l'argent. Mais c'est véritablement dans les années 1970 que sont popularisées les théorisations les plus abouties et pour nous les plus concrètes de l'État stationnaire comme projet économique viable et désirable. Après la guerre, la reconstruction a permis la période de croissance sans précédent que nous appelons aujourd'hui les Trente Glorieuses, mais les premières manifestations de la pollution, les chocs pétroliers qui font croire, certes à tort, à une pénurie prochaine, et la mise au jour des premiers dérèglements de l'écosystème d'origine anthropique avérée font émerger un discours écologique ou écologiste nouveau et critique. Et alors, l'État stationnaire n'apparaît plus ni comme un épouvantail économique à reporter sine die à force d'ingéniosité et de progrès de la technologie humaine, conformément à la première définition de Ricardo, ni comme un terme fatal demeurant toutefois très éloigné, donc dans une certaine mesure inimaginable, comme dans la première définition de Mill, mais au contraire, les limites naturelles à la croissance, indéfinies et exponentielles de l'économie humaine, se montrent finalement plus proches que prévu, et la recherche d'une solution de remplacement, d'un substitut à cette croissance, s'invite à l'ordre du jour dans l'esprit de la deuxième définition de Mill. Donc c'est maintenant ce dont on va traiter. Quelle raison de parler à présent de l'État stationnaire ? Parlons donc de la panne et de l'ineptie de la croissance. Le premier signal d'alarme a été tiré par un rapport qu'on ne présente plus, mais peut-être qu'il faudrait le présenter encore. C'est le fameux et excellent rapport « Les limites à la croissance dans un monde fini », dit rapport du Club de Rome, on en a beaucoup d'exemplaires dans cette salle, à mettre vraiment entre toutes les mains, me semble-t-il. Écrit donc par Donella Meadows, Denise Meadows et Jørgen Randers en 1972, à la demande du Club de Rome, et plusieurs fois remis à jour et réédité depuis. Ce travail d'ampleur s'appuie sur une modélisation du monde par ordinateur, appelée le modèle World 3, qui intègre et qui coordonne la majorité des facteurs économiques et industriels connus, pour représenter et étudier la dynamique de quelques comportements futurs possibles de l'économie humaine et de l'écosystème Terre, en fonction de différents paramètres modulables, comme par exemple les progrès technologiques, la réduction des externalités, la réduction de la consommation, la limitation de la croissance de la population, etc. Cette modélisation, qui a été conçue par des théoriciens des systèmes et des équipes pluridisciplinaires à partir des données économiques, statistiques et des modélisations comportementales les plus à jour, propose des scénarios et développe des idées pour en fait modéliser ce à quoi pourrait ressembler l'impact anthropique de notre activité donc sur les écosystèmes en fonction de différentes tendances correspondant aux différentes politiques possibles à mettre en place. Donc je tiens à préciser ici que les auteurs eux-mêmes insistent clairement sur le fait que ce modèle est exploité à des fins d'analyse, en particulier en termes de théorie des systèmes pour mettre en relief les interactions et l'interdépendance qui unissent énormément de nos activités avec en plus l'écosystème et des facteurs démographiques et sociaux. Et non, donc ce modèle n'est pas créé à des fins de prédiction exacte de l'avenir. C'est pourquoi on ne peut pas leur reprocher de n'avoir pas réussi à prévoir exactement ce qui s'est passé quelques années après, etc. Ce n'est pas une boule de cristal, mais ces simulations nous apprennent tout de même quelque chose. La chose la plus importante, c'est que ce rapport pointe la situation de ce qu'ils appellent, je cite, « le dépassement des limites de la capacité de charge de la planète » dans laquelle l'économie humaine est désormais engagée. Et ce rapport, la proximité est vraiment sidérante, il répète explicitement la formule, l'alternative formulée 150 ans plus tôt par John Stuart Mill. Le seul véritable choix est de ramener les flux qui soutiennent les activités humaines à des niveaux durables, soit volontairement, grâce à notre technologie et à nos capacités d'organisation, soit forcés par la nature, à cause du manque de nourriture, d'énergie, de matériaux, et au prix d'un environnement de plus en plus malsain. Ça, c'est le rapport Meadows, mais ça pourrait très bien être de Mill également. Bien entendu, les auteurs du rapport du Club de Rome appellent de leur vœu la première option, celle d'un aiguillage délibéré vers le respect des limites de la soutenabilité du développement, et dès les années 70, ils plaident justement pour cette transition en douceur d'une société de croissance vers une société d'économie stationnaire, respectant les limites de la capacité de charge de la planète, réduisant l'empreinte écologique de nos activités. Le problème, c'est que c'est désormais il y a plus de 40 ans. Et en 40 ans, la croissance exponentielle tant recherchée dans l'économie humaine a suivi la courbe de toute exponentielle. J'en profite pour vous faire, du coup, un petit rappel sur ce qu'est une croissance exponentielle, parce que, bien sûr, on sait à peu près tout ce que c'est, mais les effets sont parfois surprenants. Bon, exponentielle, la formule, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une croissance dont le pourcentage, dont le taux de croissance, donc, est proportionnel au chiffre de l'année de référence, c'est-à-dire un taux fixe, mais qui ne cesse de se référer à une quantité elle-même croissante. Donc si on prend une croissance de 7% par an, par exemple, ce qui est finalement assez énorme, ça donne une augmentation de 7% de 100% la première année, puis une augmentation de 7% de 107% l'année suivante, puis 7% de 114,5%, etc. Et le taux de croissance étant fixe et proportionnel à l'année de référence, il ne cesse de représenter une quantité croissante de richesse ou de quelques produits que ce soit dans l'absolu. Et ainsi, une croissance d'un taux de 7% par an fait doubler une quantité donnée de richesse, de population ou de rejet en seulement 10 ans. Autre exemple avec une croissance qui nous est peut-être plus familière, une croissance de 3% par an d'une population, on voit que la courbe d'une exponentielle commence doucement, mais une croissance de 3% entraîne le doublement d'une population donnée tous les 23 ans environ. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête avec la croissance exponentielle, c'est qu'il ne s'agit pas d'une croissance régulière, linéaire, mais d'une croissance qu'on va appeler cumulée. Et ici, ça c'est un tableau que j'emprunte donc au travail de Thomas Piketty, qui montre comment un taux qui peut apparaître dans la première colonne comme dérisoire, 0,1% ou 1% de croissance, mène finalement, au bout de 100 ans, la deuxième colonne en partant de la droite, à un doublement, ou presque un triplement d'une certaine quantité dans le cas d'une croissance de 1%, ou une multiplication par 131 dans le cas d'une croissance de 5%. Et sur le très long terme, au bout de 1000 ans, on voit des coefficients qui ne tiennent même plus dans le tableau à la fin. Donc, Thomas Piketty, dans son dernier ouvrage, nous informe que la tendance de fond des sociétés humaines depuis l'Antiquité, ce n'a pas été une croissance comme nous la connaissons ou telle que nous la recherchons aujourd'hui, ça a été une croissance démographique probablement inférieure à 0,1% par an entre l'an 0 et l'an 1700, à peu près égale à 0,8% par an en moyenne entre 1700 et 2012. Et en ce qui concerne la croissance de la production, une sorte de richesse agrégée, la courbe ressemble à ceci. C'est-à-dire que la croissance mondiale depuis l'Antiquité, elle est apparemment infime pendant la majeure partie de notre histoire, et le décollement se fait vers les années 1700, et il faut attendre le 19e siècle, puis, de façon exacerbée, nos 30 glorieuses, pour atteindre des taux qui ne font pas rêver pour autant nos politiques, qui sont des taux de 4% de croissance, avec le petit décrochement que nous connaissons au plus récent. Donc, résultat de cette croissance exponentielle récente, mais qui n'est pas une tendance de fond de l'humanité, depuis les années 70, depuis la première édition optimiste du rapport Meadows, certaines productions ou consommations ont doublé, certaines ont triplé, quadruplé, voire centuplé. Et il en est de même des externalités humaines, épuisement des ressources, pollution, accumulation de déchets. Notons, la population terrestre est passée de 3,7 milliards d'êtres humains en 1970 à 7 milliards aujourd'hui. Et à mesure que les effets de la croissance exponentielle se font exponentiellement sentir, même avec le ralentissement qu'on connaît, les études se font de moins en moins optimistes et de plus en plus pressantes, et l'aiguillage choisi vers un état stationnaire délibéré, apparaît désormais non plus comme un repoussoir, mais au contraire comme une urgence, sinon une urgence déjà manquée. Et c'est ce dont on va parler. Alors, donc dans ce contexte actuel, qu'entend-on précisément par état stationnaire? Comment le définir en toute rigueur? Je vais ici commencer par vous donner les définitions qu'en donnent ces principaux théoriciens actuels, qu'il s'agisse donc des membres du Club de Rome ou de plusieurs pionniers des Steady State Economics, que sont Tim Jackson, Herman Daly et les membres du Center for the Advancement of Steady State Economics, dont je vais vous montrer les noms un petit peu plus tard dans le diapo. Quelle est cette définition? Une économie d'état stationnaire est, selon eux, une économie mettant en jeu des quantités constantes de population et d'artefacts humains, maintenues à un certain niveau suffisant et délibéré, à la faveur de flux de maintenance bas, c'est-à-dire avec les plus faibles flux de matière et d'énergie possibles depuis les premières étapes de production jusqu'à la dernière étape de la consommation. Ici, donc, c'est la définition qu'en donne le CASI, le Center for the Advancement of Steady State Economy. Autre définition possible, réduite à sa plus simple définition, une économie d'état stationnaire est une économie qui vise à maintenir un niveau stable de consommation de ressources et de population. C'est une économie dans laquelle l'utilisation des matières premières et de l'énergie est maintenue dans la limite des capacités écologiques et dans laquelle l'objectif d'accroissement du PIB est remplacé par celui de l'amélioration de la qualité de vie. Cette citation est extraite de cet ouvrage « Enough is Enough » écrit par deux membres du CASI que je mentionnais à l'instant. Donc il faut concevoir que cet état stationnaire ne peut plus être présenté simplement comme une réalité économique plus ou moins choisie, mais comme un projet de société qui doit être à même de répondre à la question que pose Jean-Marc Jancovici dans la préface des limites à la croissance, c'est-à-dire comment organiser un avenir économique, politique, social et surtout mental qui soit désirable. Et désirable paraît dans ce contexte être un maître mot. Pour cela, la configuration nouvelle doit avant tout garantir une infrastructure soutenable à l'activité humaine, une infrastructure garantissant la jouissance d'un mode de vie satisfaisant de manière pérenne. En ce sens, elle doit obéir à ce qu'on peut appeler les trois règles de la soutenabilité, qu'on peut appeler familièrement les lois de Daly, du nom de leur formalisateur, et qui se fondent sur le constat que l'économie est en quelque sorte un sous-système du système clos et globalement en état stationnaire qu'est la biosphère, et donc qu'elle doit se conformer aux limites de celle-ci. Je tiens à préciser sur ce point que, du point de vue de la matière, on peut considérer la biosphère comme un système en état stationnaire. Donc, quand on s'intéresse à la soutenabilité du développement, il faut pouvoir inclure l'activité humaine dans l'écosystème, dans les limites de l'écosystème, et chercher quelles sont les contraintes à un développement humainement viable. Ces lois de Daly sont les suivantes. Première loi, le taux d'utilisation des ressources renouvelables ne doit pas excéder leur taux, non renouvelable, ne doit pas... Qu'est-ce que j'écris ? Non, c'est bien ce que vous lisez. Le taux d'utilisation des ressources renouvelables ne doit pas excéder leur taux de régénération. Deuxième loi, le taux d'utilisation des ressources non renouvelables, cette fois, ne doit pas excéder le taux auquel des substituts renouvelables à ces ressources sont développés. Et troisième loi, le taux d'émission de pollution ne doit pas excéder la capacité d'assimilation de l'environnement. Donc, concrètement, comme le défend le rapport de la conférence inaugurale du Centre d'avancement l'économie d'état stationnaire qui a été publié sous ce titre, dans cet ouvrage, les deux priorités pour la devenue de l'état stationnaire délibéré sont d'une part limiter le flux, ce que les auteurs appellent en anglais « throughput », c'est aussi imprononçable qu'intraduisible. Donc, limiter le flux de production, de consommation et de population, et d'autre part, la répartition des richesses Et au sein de ces deux priorités, limitation, répartition, on peut aussi mentionner l'efficacité dans l'allocation des richesses, sachant que celle-ci doit avoir lieu dans chacune des deux catégories précédentes. Le premier principe, ce principe de limitation, il obéit à deux contraintes qui correspondent aux deux niveaux d'épuisement structurel qui sont évoqués dans les lois de Daly et qui sont très bien explicités dans le rapport Meadows. La première contrainte à ces trois lois, c'est ce qui concerne les ressources, c'est-à-dire la capacité de la Terre à fournir des matières premières et de l'énergie, renouvelable ou non. Les ressources, c'est la quantité totale de matières présentes dans la croûte terrestre, nous disent les auteurs du rapport Meadows, et elles sont par définition présentes en quantité irréductiblement finie sur la planète. Pour cela, il faut les distinguer de ce qu'on appelle couramment les réserves, qui, elles, correspondent à la quantité de matière qui a été découverte ou dont on suppose la présence et qui peut être utilisée moyennant des hypothèses raisonnables en matière de technologie et de coûts. Souvent, la plupart des politiques ou des industriels veulent se montrer rassurants en ce qui concerne les réserves. Ils nous disent « il y a encore du pétrole ». On ne l'a pas encore découvert, mais on sait qu'il est là, on pourra l'utiliser, par exemple. Pourtant, peut-être que les réserves n'ont pas encore atteint leur terme d'exploitation ou de découverte, mais les ressources, elles, sont en quantité finie et on peut arriver à estimer globalement leur quantité. Donc, il ne faut pas non plus oublier que les réserves, ces ressources mobilisables, elles sont finies tout comme les ressources, bien sûr, mais en plus, elles suivent la loi des rendements décroissants. Donc il faut aussi compter sur les coûts croissants de leur extraction, de leur mise en disponibilité, etc. Donc, premier élément limitant, les ressources, l'ensemble de ce dont la Terre peut nous pourvoir, et qui sont en quantité irréductiblement finies. Deuxième élément limitant, à ne pas oublier, ce sont les exutoires. Les exutoires, c'est la capacité de la Terre à absorber, diluer ou dégrader les nuisances et les rejets d'origine anthropique. Cette deuxième limite est extrêmement souvent négligée. Mais on sait ici gré à Pierre-Noël Giraud, qui est venu faire la conférence inaugurale de ce cycle, de nous rappeler que les ressources, comme les poubelles, sont deux éléments limitants de notre économie. On s'intéresse trop souvent à la capacité qu'a la Terre de nous fournir des matières premières, mais non à celle qu'elle a d'absorber nos rejets. Ressources et exutoires sont donc les deux critères limitants d'un point de vue structurel et global à l'expansion de l'économie humaine. Et il est absolument crucial de garder à l'esprit que l'effondrement de l'économie humaine, une crise majeure, peut advenir très vite sans que toutes les ressources soient épuisées ou que tous les exutoires soient saturés. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça peut créer des biais rhétoriques pour essayer de masquer des situations, mais il faut toujours garder à l'esprit que l'épuisement d'une ressource entraîne communément la surexploitation d'une autre par effet de substitution. Et l'ensemble complexe des interactions entre tout ce que l'on exploite ou tout ce que l'on rejette dans l'écosystème forme ce que les théoriciens du système qui rédigent le rapport Meadows appellent des boucles de rétroaction. Et c'est un terme, en fait, qui recouvre une réalité extrêmement simple. Tout d'abord, l'aggravation rapide d'un dérèglement ou d'un déséquilibre qualitatif dès qu'une brèche est entamée dans un écosystème, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Il suffit que, par exemple, qu'un prédateur soit en voie d'extinction dans un certain lieu pour qu'une autre espèce pullule, etc., et que finalement l'ensemble de l'écosystème soit déséquilibré. Ou alors, un effet boule de neige sur le plan quantitatif, c'est-à-dire l'emballement des processus de fragilisation une fois qu'une première brèche a été percée dans un équilibre systémique. Le deuxième principe, donc là c'était pour la limitation, le deuxième principe, celui de la répartition, il fait quant à lui directement référence à ce que Mill disait déjà de la distribution des richesses et des risques de prédation économique dans un état stationnaire fini et subi. Dans une économie stable, sans mécanisme de compensation ou de réglementation, spontanément, des inégalités se creusent. Il faut donc contrecarrer ces tendances à la concentration d'entrée de jeu par des mécanismes à même de garantir davantage de justice sociale ou de solidarité, tout en respectant bien sûr au maximum la liberté des individus. Et ça, ça nécessite des mesures proprement politiques. On pourra en mentionner quelques-unes et j'y reviendrai dans quelques instants. En tout cas, dans tous ces domaines, les priorités pointées par les différents rapports sont doubles. D'une part, éviter ce que le rapport Meadows qualifie d'effondrement, c'est-à-dire l'advenue brutale et non contrôlée d'un état stationnaire subi, c'est-à-dire de graves, enfin, voire même de graves récessions, qui ont des conséquences, qui auraient des conséquences écologiquement et socialement dramatiques. Et d'autre part, il faut hâter la transition sans heurts, de manière la plus concertée possible à l'échelle internationale, vers un état stationnaire choisi, reposant sur de nouveaux modèles de développement et utilisant de nouveaux outils de mesure du bien-être et du développement humain. Donc, je rappelle les trois buts principaux à toutes les échelles, la limitation du flux, la répartition des richesses, l'efficacité dans l'allocation de celles-ci, et ceci de manière délibérée et concertée, avant, comme nous le disait Mille il y a déjà 150 ans, que la réalité nous y oblige. Les différents chapitres de cet ouvrage détaillent les diverses modalités pour... Mais, enfin, je cite celui-ci, mais vous en avez beaucoup d'autres... Libre à vous de compléter, bien sûr, la bibliographie. Ces différents ouvrages s'attachent précisément à détailler les diverses modalités pour atteindre à ces trois grands objectifs. Et ce qu'ils s'attachent surtout à mettre en évidence, c'est que cela ne peut pas représenter des micro-réformes limitées dans le champ social. Ça ne peut pas être ponctuel, ici ou là. On ne peut pas, entre guillemets, donc faire de l'écologie en introduisant des doses homéopathiques de réformes dans certaines politiques globales, si celles-ci ne changent pas. Tous les éléments de l'activité humaine, toutes les dimensions de l'établissement humain social sont concernés par le changement qui est demandé. Économie et industrie, démographie, justice sociale, redistribution, souveraineté financière, nouvelles mesures et nouveaux indicateurs de bien-être, nouvelle répartition du travail en vue du plein emploi, changement de paradigme économique, philosophique et spirituel, tout ça est vraiment montré comme interdépendant. Alors bien sûr, quand je vous lis ce sommaire, pour le moins sommaire, le programme semble à première vue utopique. Il faut tout changer. Mais tous les ouvrages qui sont aujourd'hui consacrés à l'exposé de ce que pourrait être un état stationnaire s'attachent justement à battre en brèche l'accusation selon laquelle ce mode de vie se caractérise soit par un retour en arrière, soit par le déni de la réalité présente, et l'accusation selon laquelle, je cite, « ses partisans ne réfléchissent pas à une réelle alternative de développement ». On peut d'ailleurs objecter que pour ce qui semble utopique, ce qui semble le plus utopique, ce n'est pas de vouloir se stabiliser économiquement, ce serait de désirer poursuivre donc une croissance exponentielle dans l'enceinte d'un système fini, où finalement la seule chose qui soit illimitée à notre portée, c'est la captation d'une énergie solaire que l'on peut présupposer, elle, illimitée. Donc vouloir bâtir un substitut au schéma de la croissance ne peut apparemment plus, au vu des crises actuelles, être taxé d'utopique, et les promoteurs de l'état stationnaire s'attachent explicitement à promouvoir un modèle de développement réaliste et une vision concrète de la transition à opérer, en prenant acte justement de l'interconnexion intrinsèque de tous les aspects de l'existence humaine. Alors, est-ce qu'on peut mettre en place l'état stationnaire aussi rapidement que cela ? Et surtout, est-ce qu'il est encore temps de mettre en place cet état stationnaire délibéré, cet état stationnaire choisi, dont les auteurs du rapport Meadows se faisaient l'avocat dans les années 70, en 1972 précisément ? Il semble qu'une telle perspective ait été vraiment envisageable sans heurts lors de la parution du rapport du Club de Rome. Mais le problème, c'est que les données actuelles mettent en évidence un fait alarmant, et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de la réédition actualisée de ce rapport. L'humanité est déjà engagée dans un processus de dépassement des limites. Les trois lois de Dali que je mentionnais tout à l'heure ont déjà été transgressées, et nous vivons déjà à crédit sur la planète, c'est-à-dire que nous vivons comme sur une hypothèque des réserves et des ressources futures, et nous avons déjà dépassé la capacité de charge de l'écosystème. Autrement dit, notre mode de vie n'est pas un régime soutenable, et si l'on se contentait de stabiliser notre consommation, notre production aux paramètres actuels, par exemple avec une croissance économique nulle à partir d'aujourd'hui, nous serions déjà engagés irrémédiablement dans la voie de l'effondrement. C'est ce qu'on appelle un effet d'hystérésis, c'est-à-dire que continuer comme avant, même en bonne santé, pourrait-on dire, ne suffit pas à compenser un décrochage positif ou négatif préalable. Et les modélisations montrent que désormais, il nous faut faire diminuer sensiblement la surconsommation actuelle des ressources et la saturation des exutoires. Il faut diminuer pour revenir dans les limites de la soutenabilité. Et c'est là que s'invite au débat, évidemment, le programme de décroissance. Donc, je tiens à être claire sur la thèse que je défends ici. Je suis convaincue, comme et par les auteurs que j'ai mentionnés, que l'arrivée à un état stationnaire est inéluctable, car il est physiquement, mathématiquement et j'ai envie de dire logiquement inéluctable. Pas de croissance infinie dans un monde fini. La vraie question est de savoir si l'on attend que cet état stationnaire s'impose à nous dans la douleur, et j'ai envie de dire quelle douleur, car ça pourrait vraiment ressembler à l'enfer sur Terre avec une combinaison assez intriquée de catastrophes naturelles, environnementales et humaines et sociales, ou si on fait advenir cet état stationnaire de manière concertée et progressive. Et tout le monde penche, je suppose, pour la deuxième solution. Mais le problème, c'est qu'il s'avère que nous manquons de temps. C'est ça notre plus grand problème aujourd'hui, c'est le manque de temps, car la simple prudence, le principe de précaution, la sagesse pratique n'est plus aujourd'hui de mise, enfin elle est tout, comme toujours de mise, mais elle n'est plus suffisante, car nous sommes au pied du mur, ce qui évidemment rend la situation beaucoup plus alarmante et beaucoup plus contraignante et critique que dans les années 70. Donc, dans ce contexte, il semble nécessaire d'opérer une phase de décroissance. Mais celle-ci, il faut bien savoir ce que veut dire décroissance en lien avec le concept d'état stationnaire. Est-ce que c'est la même chose ? Non. Il ne faut pas confondre les deux. La décroissance, n'est pas plus que la croissance un objectif de long terme, contrairement à l'état stationnaire. Dans le scénario, par exemple, défendu par Herman Daly et Tim Jackson, la décroissance se définit, je cite, comme une transition volontaire vers une société juste, participative et écologiquement soutenable. La décroissance est donc une transition dont le but ultime est une économie d'état stationnaire. Et encore une fois, le mot-clé ici, de même que le mot-clé d'état stationnaire, c'est de le rendre désirable, c'est de faire advenir une société à la fois soutenable, donc contraignante, mais à même de pouvoir nous faire développer nos facultés d'être humains dans les meilleures conditions. Ici, le mot-clé de la transition de la décroissance, c'est le caractère volontaire de l'inversion de la courbe de la croissance. Il faut que tout cela se passe dans les meilleures conditions, et je pourrais citer ici le titre d'un ouvrage de Peter Victor qui s'intitule « Slower by design, not disaster », donc il faut ralentir par dessein et pas par les contraintes imposées par l'effondrement, par le désastre. Parce qu'en effet, si le processus est coordonné, délibéré, orienté dans un sens de justice et surtout ciblé dans différents domaines particuliers mais interconnectés, il n'y a aucune raison pour qu'une telle décroissance ressemble à l'effondrement qui semble se rapprocher par ailleurs. Donc c'est pour ça que je vous invite à garder à l'esprit cette distinction conceptuelle entre état stationnaire et décroissance, la décroissance étant, dans le cadre de cette théorie de l'état stationnaire, un moyen de l'advenue de l'état stationnaire. Et puis par ailleurs, il ne faut pas non plus confondre différents types de croissance ou de développement. Et les auteurs du Club d'Europe eux-mêmes se méfiaient de l'expression « croissance zéro » car il semblait nécessaire pour eux de bien montrer que ce qu'ils pourfendaient, c'est les excès de la croissance économique, mais qu'en aucun cas, ça n'exclut des possibilités d'amélioration ou de progression d'un bien-être, notamment non matériel, pour l'humanité. Donc, quels sont les buts de cet état stationnaire ? On pourrait les résumer en trois mots, sobriété, justice et bien-être. En effet, les théoriciens de l'état stationnaire, ils ne renoncent en aucun cas à tout idéal de progrès, au contraire. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est l'ampleur des similitudes qui rapprochent le projet actuel d'une steady state economy des idéaux humanistes du 19e siècle. Je cite le rapport Meadows, « Une société durable n'est pas une société immobile, ennuyeuse, uniforme ou rigide. Ce n'est pas, et cela ne peut pas être, une société contrôlée par un pouvoir central ni une société autoritaire. » J'y vois l'écho direct des idéaux humanistes, des économistes classiques, et plus largement des démocrates et des libéraux classiques, en particulier du XIXe siècle. Et cela ne doit pas nous faire trouver nos contemporains rétrogrades. Au contraire, loin d'être tenté de dire qu'ils ne font que répéter le passé, je pense qu'on devrait au contraire saluer le caractère proprement visionnaire de ces théoriciens qui nous ont précédés et aussi nous inquiéter du retard relatif accumulé au XXe siècle sur ces questions. Prenons par exemple l'exigence démocratique qui est exprimée dans cette citation. Nous sommes aujourd'hui attachés à l'état de droit comme condition de la liberté individuelle et nous plaidons majoritairement pour la forme démocratie et pour l'encouragement d'initiatives décentralisées. Cette exigence était déjà affirmée par Mill lorsqu'il se faisait l'avocat du gouvernement représentatif ou de l'émancipation des femmes et des classes ouvrières. On peut tracer des parallèles entre les deux projets à chaque priorité du programme d'économie d'État stationnaire. On peut revenir aussi sur l'impératif de soutenabilité et les contraintes qu'il induit. Tout d'abord, les considérations économiques et démographiques se rejoignent d'un siècle à l'autre, mais pourrait-on dire avec de meilleures raisons ou des raisons encore plus urgentes aujourd'hui. Prenant en considération la limitation nécessaire des ressources naturelles terrestres, la stabilisation de la population, voire la diminution graduelle de celle-ci, via la prolongation des politiques de stabilisation de la population et de contrôle des naissances, paraissent indispensables. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du malthusianisme, et le mot lui-même, habituellement, fait peur, mais les théoriciens actuels cherchent pourtant explicitement des méthodes qu'ils disent non coercitives et fondées sur la compassion pour atteindre ce but. Comment ? La première mesure à adopter, selon eux, c'est évidemment réduire au préalable les normes, les objectifs, les attentes, les pressions, les incitations et les coûts qui poussent les individus à faire plus d'enfants que ce que le seuil de renouvellement exige. Donc, avant même de savoir comment inciter la population à se restreindre, comment ne pas l'inciter à croître ? Ces incitations, dont il est question et que dénonce le rapport Meadows, par exemple, peuvent relever de politiques explicitement natalistes ou d'allocations familiales, mais elles désignent aussi, c'est ça qui est intéressant, la précarité financière qui incite à assurer son avenir par des enfants nombreux qui pourront être mis à contribution plus tard dans l'économie domestique, et c'est notamment le cas dans les pays en développement et qui n'ont pas achevé ce qu'on appelle la transition démographique. Je ne sais pas si j'en parle ici, voilà. Transition démographique consistant donc à passer d'un modèle de forte natalité, forte mortalité, à un modèle de faible natalité, faible mortalité, où il y a toujours un problème entre les deux, qui est que on passe d'abord d'une situation de forte natalité, faible mortalité, avant ensuite de faire également baisser la natalité. Donc, ce qu'il faut noter dans les programmes de ces théoriciens de l'État stationnaire, c'est que pauvreté et natalité sont pris dans la même boucle de rétroaction, vicieuse. La population pauvre a une plus forte natalité, ce qui entraîne plus de population, donc plus de pauvreté, etc. A l'inverse, les aides à la transition démographique, c'est-à-dire la réduction de la pauvreté et de la précarité et la limitation des naissances pour arriver à un système de faible natalité, faible mortalité, cela participe indissolublement d'une même boucle de rétroaction vertueuse. Donc, encourager une juste allocation des richesses, une juste répartition, c'est donc aussi favoriser l'advenu des conditions de durabilité du développement à long terme. D'autres facteurs pour cela entrent en jeu, comme l'instruction et l'éducation. C'est pourquoi tous les tenants de l'État stationnaire et de la soutenabilité du développement en général fondent de grands espoirs sur la diffusion de l'instruction et sur l'éducation des filles en particulier, qui est souvent présentée comme une priorité. En effet, l'élévation du niveau d'éducation des femmes favorise leur emploi ainsi que leur émancipation par rapport à l'instance masculine du foyer. L'emploi invite à avoir une natalité plus tardive et ces facteurs donc conduisent à retarder l'âge du mariage, donner à la femme plus de liberté dans la conduite de sa vie et coupler à de l'information sur les méthodes de planning familial à faire décroître une partie des naissances. Et puis, à la génération suivante, par l'entremise des mères, on a une augmentation de cette information, une augmentation de cette instruction des femmes, et Mill, déjà en son temps, soulignait le caractère vraiment salutaire pour une société des femmes et de mères instruites. Cette aspiration à une meilleure éducation, à la fois comme moyen de l'État stationnaire et comme finalité à celui-ci, car un mode de vie soutenable, ne l'oublions pas, vise tout de même à faire advenir autre chose que simplement décroître notre quantité de consommation de ressources, c'est faire advenir les conditions de possibilité d'un bien-être pérenne et des meilleures conditions de vie possibles. Donc, cette aspiration à une meilleure éducation rejoint aussi la conception du travail qu'ont la plupart des décroissants ou des théoriciens de l'État stationnaire. Comme une majorité d'économistes au XIXe siècle, ils envisagent une société exclusivement constituée de travailleurs. Le travail doit garantir à tous une juste rémunération, une occupation digne et, dans le même temps, être limité en durée pour permettre un accès accru aux loisirs et à la culture. Et pour cela, la formation des individus et la promotion de la culture doivent être repensées pour ne plus apparaître simplement comme un simple réquisite du marché de l'emploi, mais comme la clé de l'épanouissement et de l'amélioration de soi. Tout un chacun devrait jouir d'une année de travail plus courte et de davantage de temps de loisirs, disent Dan O'Neill et Rob Dietz dans cet ouvrage, et d'une éducation en vue de la vie elle-même et non seulement de l'emploi. Cette priorité placée dans l'éducation et dans la recherche de plaisirs non matériels, qui sont de ce fait des biens illimités et par définition non rivaux, avoir de la culture n'empêche en aucun cas vos successeurs ou vos concitoyens d'en acquérir, c'était déjà le cheval de bataille de John Stuart Mill, mais aussi d'Alexis de Tocqueville, son interlocuteur français, en leur temps. Donc hier comme aujourd'hui, les auteurs ils insistent surtout sur cette nécessité de recentrer les priorités humaines sur des biens illimités, de préférence immatériels, et aussi sur le contact avec une nature préservée comme moyen d'élévation spirituelle. Pour eux, Mill dira que la solitude, un monde sans solitude, est un bien pauvre idéal. Il va plus loin. Pour lui, l'environnement et le contact avec une nature préservée nous fait nous élever et justement nous aide, encore une fois, boucle de rétroaction vertueuse, à sortir du piège d'un consumérisme ou d'un matérialisme désirant toujours plus. Et encore une fois, je crois que je vais succomber au plaisir de vous citer longuement John Stuart Mill. Alors cette fois-ci, longuement, c'est assez longuement, mais c'est un texte vraiment méconnu. Je pense que peu de gens lisent Mill, il est un petit peu enterré, et pourtant quand on lit son texte, il me semble quand même d'une merveilleuse actualité. Alors, il n'est pas nécessaire de faire observer que l'état stationnaire de la population et de la richesse n'implique pas l'immobilité du progrès humain. Les arts industriels eux-mêmes pourraient être cultivés aussi sérieusement et avec autant de succès, avec cette seule différence qu'au lieu de n'avoir d'autre but que l'acquisition de la richesse, les perfectionnements atteindraient leur but, qui est la diminution du travail. Il est douteux que toutes les inventions mécaniques faites jusqu'à ce jour aient diminué la fatigue quotidienne d'un seul être humain. Donc ici, quelque chose que l'on entend fréquemment, qui est les gains de productivité n'ont jamais servi à faire décroître la tâche du travailleur. Ils ne servent qu'à augmenter la production. Ici, Mill invite justement à l'effet inverse. Plus de productivité, donc moins de travail pour une production identique. Le résultat, selon lui, serait le suivant. Nous pouvons supposer qu'on parvienne à cette meilleure distribution des richesses par l'effet combiné de la prudence et de la frugalité des individus et d'un système d'éducation favorable à l'égalité des fortunes, autant que cela est possible, sans attenter à la liberté de chacun de disposer des fruits considérables ou médiocres de son travail. Sous cette double influence, la société se distinguerait par les traits suivants. Un corps nombreux et bien payé de travailleurs. Peu de fortunes énormes, à part celles qui auraient été gagnées et accumulées pendant la vie d'un homme, mais un bien plus grand nombre de personnes qu'on en compte aujourd'hui, non seulement exemptes des travaux les plus rudes, mais jouissant d'assez de loisirs du corps et de l'âme pour cultiver librement les arts qui embellissent la vie et donner des exemples aux personnes moins bien placées pour cela. Cette condition de la société, bien meilleure que celle d'aujourd'hui, est non seulement compatible avec l'état stationnaire, mais elle semble plus facile à réaliser dans cet état que dans tout autre. Donc, tout cela, pour résumer, consiste à nous enjoindre à changer notre corpus de représentation et à re-hiérarchiser nos aspirations. Rappelons-le, ce à quoi encourage, ce à quoi invite les auteurs des deux siècles, des trois siècles, encourageant cette transition vers l'état stationnaire délibéré, c'est à passer du paradigme du toujours plus à celui du c'est bien assez, passer du more à l'enough, selon ces auteurs. Et je tiens à dire que ce titre, qui ressemble a priori à l'expression véhémente d'une exaspération, assez c'est assez, de même qu'on dirait trop c'est trop, ben, on peut le comprendre tout à fait autrement. C'est que assez, c'est bien assez. Et donc, atteindre cet état d'abondance frugale, si j'ose l'oxymore, ce serait se désaliéner de la quête illimitée des satisfactions matérialistes et retrouver dans le travail beaucoup de choses qu'on a perdues. Un travail qui serait relevé en dignité et généralisé à tous, ça nous permettrait de retrouver la joie du créateur dont peuvent parler les théoriciens marxistes, mais aussi Hannah Arendt, cette joie qui semble avoir disparu dans la plupart des gagne-pains auxquels nous devons satisfaire pour gagner notre croûte, et donc nous élever de notre condition de ce qu'Arendt appelle l'animal laborens, qui a parfois gagné, avec l'hypermodernité, le droit d'être promu au rang de consommateur roi ou d'homo festivus, selon les auteurs et selon les styles. Donc, deux petites citations pour conclure sur ce projet de changement de paradigme, passer du toujours plus à c'est bien assez. Mon dernier point va consister... Ok. Mon dernier point consistera à interroger la place de ce projet, donc ce projet à la fois économique, mais aussi moral, voire philosophique, d'interroger sa place sur l'échiquier politique et moral. Les critiques et les amalgames, vous devez le savoir, ne manquent pas, et c'est ce qui, me semble-t-il, dessert le plus la cause. Je vais donc essayer à présent de relever quelques objections ou quelques confusions pour essayer d'y voir plus clair et peut-être réhabiliter ce projet parfois malmené d'état stationnaire. Premièrement, première réaction, je tiens à préciser que toutes les réactions ne sont pas foncièrement hostiles, mais j'essaye de compiler quelques échos que j'ai pu avoir et d'essayer de voir s'ils sont vraiment tout à fait justifiés. L'état stationnaire est-il un projet purement altermondialiste ou autrement dit de gauche, voire d'extrême gauche? Si tant est que la classification entre droite et gauche ait encore un sens, ce qui est un autre débat, mais ce dont je doute, le projet semble dans tous les cas échapper à ce clivage purement binaire. En effet, certes, il est écologiste en tant qu'il vise à la préservation des écosystèmes terrestres et il est progressiste dans la mesure où il veut refonder les conditions du développement humain. Mais outre le fait que ces deux adjectifs, écologiste et progressiste, ne dépendent pas forcément, ne sont pas forcément l'apanage d'une quelconque gauche bien délimitée, il convient de remarquer que les priorités du projet, lorsqu'elles ne sont pas directement liées à la réduction de l'empreinte écologique humaine, sont multiples et on peut noter par exemple la préservation de la souveraineté politique et financière des peuples et des États, la préservation de leur souveraineté alimentaire et économique, l'encouragement d'initiatives citoyennes décentralisées, ces différents buts requérant pour certains la redéfinition du rôle des entreprises, la redéfinition du rôle de l'innovation et des mécanismes de marché, dans le sens d'une part d'une information intégrant davantage tous les coûts de manière plus transparente dans les prix, et d'autre part d'une plus grande égalité des chances et d'une meilleure répartition des emplois, des richesses et donc des fortunes. Donc, cohabitent dans ce vaste programme frontières, économie de marché reposant sur le signal des prix pour internaliser les externalités, comme on dit, donc de droite, et appel à la fondation d'une communauté internationale à même de prendre en main conjointement les enjeux écologiques mondiaux, ainsi que de réduire globalement les inégalités. De gauche. Il paraît très dur de réduire ce programme aux étiquettes classiques partisanes. Parce qu'il se veut fondé scientifiquement, qu'il se veut pragmatique et universaliste, il me semble que le projet d'aboutissement à un état économique stationnaire se revendique politiquement neutre. Est-il pour autant idéologiquement ou axiologiquement neutre? On peut soulever plusieurs arguments, assez rebattus pour certains, selon lesquels 1. Défendre la décroissance est une vision ethnocentrique du progrès, visant à priver les pays en développement du progrès dont l'Occident a lui-même bénéficié. Deuxième argument, très souvent entendu, prôner la supériorité de la culture et de l'éducation sur la consommation en termes d'accès au bien-être et au bonheur, ce serait une vision élitiste, voire aristocratique du bonheur. Je peux y répondre rapidement. Le premier argument, on veut priver, en fait on est méchant, et on voudrait priver les pays du Sud de tout développement et les enfermer dans la misère où finalement ils n'auraient jamais dû commencer à sortir parce qu'ils menacent notre confort. Il me semble que ce premier argument, prêter ce travers au tenant de l'État stationnaire, semble témoigner d'un biais moral un petit peu grossier. Parce que si ce sont les ressources mondiales, donc les moyens collectifs, globaux, d'accès au développement qui sont menacés, ce n'est pas priver qui que ce soit, de manière unilatérale, d'appeler à la limitation générale, encore que certes les pays développés devraient-ils se sentir coupables non seulement d'avoir précipité le rapprochement de cette perspective d'un effondrement économique et écologique, mais encore d'avoir réussi à faire passer cet excès pour un avenir désirable. En tout cas, rectifier in extremis la trajectoire ne me semble pas pouvoir être taxé d'ethnocentrique ou de condescendant, d'une part parce que les efforts seraient bien évidemment partagés et que du coup ils devraient peser plus lourd pour les pays dont les niveaux de production et de consommation sont déjà particulièrement excessifs et non soutenables, et puis d'autre part parce qu'entraîner et encourager des pays moins développés sur la voie d'un développement dont on a forgé les contours et dont on s'aperçoit soi-même qu'il n'est pas soutenable et qui menace chaque jour les conditions de possibilité de sa propre reconduction, ne me paraît en rien philanthrope. Et en outre, faut-il le préciser, il n'est jamais question, dans quelque programme d'État stationnaire que ce soit, d'abandonner le tiers-monde à sa misère, bien au contraire. Et d'ailleurs, dans la réflexion écologique, on pourrait comprendre la réticence des pays émergents, qui est souvent la réticence de leurs gouvernants, mais aussi des nôtres. On pourrait comprendre la réticence des pays émergents à renoncer à goûter aux fruits de la croissance qu'ils commencent pleinement à obtenir. Pourtant, quand on regarde au-delà des gouvernants, quand on regarde les initiatives citoyennes, on voit que ces pays apparaissent au contraire comme de grands réservoirs de contestation face aux mutations accélérées et notamment au déclin à marche forcée des structures agricoles que le modèle occidental développé leur impose. Et par exemple, pour ne citer que le Centre pour l'avancée de l'économie d'État stationnaire que je vous mentionnais tout à l'heure, les implantations dans les pays du tiers-monde et les pays émergents, comme l'Inde, les pays africains, etc., ne manquent absolument pas. Et c'est tout l'enjeu de toutes les structures de défense, par exemple, de l'agriculture paysanne dans le monde comme modèle de développement soutenable, à l'inverse de l'agro-business. On peut aborder maintenant la critique en termes d'élitisme ou d'aristocratisme sous-jacent dans ce projet. Il semble pourtant que les démocrates les plus égalitaires ne trouveraient rien à redire aux modalités pratiques qui sont proposées. Les priorités sont, rappelons-le, l'amélioration de l'accès de tous, et en particulier des filles et des femmes, à l'éducation dans tous les pays du monde. La limitation de la durée du temps de travail, couplée à une meilleure répartition du travail dans la population, et à des fins d'abolition des atteintes à la dignité humaine liées aux tâches dégradantes. Certes, des modalités très concrètes, les politiques à mettre en place peuvent être sujettes à controverse, par exemple la proposition d'instaurer un revenu minimal pour tout citoyen ou celle d'instaurer un revenu maximal. Ces modalités se discutent, mais les économistes qui contribuent à ces programmes et les citoyens qui s'en emparent ne semblent guère pouvoir être taxés foncièrement d'élitistes. Enfin, en ce qui concerne l'anticonsumérisme ou l'antimatérialisme inhérent au projet qui serait le foyer de son élitisme, je pense sérieusement que les détracteurs de cette visée ne devraient pas quand même être légion. Nous valons mieux que je sais pas. Nous valons mieux qu'un réfrigérateur rempli de soda qui nous font tout le mal que l'on sait. Troisième objection, le projet peut être attaqué parce qu'il serait paternaliste, voire liberticide. Et là, je pense que c'est là qu'on a l'argument peut-être le plus fort et qui mérite d'être pris en compte parce que c'est l'argument le plus prégnant pour nos mentalités modernes de citoyens qui se définissent avant tout comme des individus plus que jamais attachés, comme le dit Benjamin Constant, à la paisible jouissance de notre indépendance privée. dans une société qui pourtant, faut-il le rappeler, est une société indéniablement régie et orientée par des stimuli idéologiques et publicitaires aussi latents qu'omniprésents. Se limiter, mieux répartir les richesses, ces deux injonctions font communément peur, car elles menacent notre liberté, qui est principalement aujourd'hui une liberté de consommateur. Et certains voient déjà se profiler à l'horizon l'ombre d'un totalitarisme d'un nouveau genre, avec les Khmers verts, autres terrifiants, jansénistes écolos, culpabilisateurs, moines soldats, et j'en passe. Il me semble au contraire que le projet d'une avancée concertée vers une économie d'État stationnaire délibérée n'a rien d'antimoderne, n'a rien de janséniste, on va laisser là ces malheureux solitaires de Port-Royal, et renoue avec la définition même de ce qui devrait être la teneur de la politique et de l'économie, ainsi que de l'économie politique, bien sûr, telle que la modernité les conçoit. Pour rappel, l'Ulitré définit la politique comme la science du gouvernement des États et l'économie comme le bon ordre dans la conduite et l'administration de tout établissement qui s'alimente par la production et la consommation. L'économie politique, pour sa part, est définie comme la science qui traite de la production, de la distribution et de la consommation des richesses, avec un rapport normatif, prescriptif, irréductible à la réalité décrite. Et c'est ainsi, ce rapport normatif, il faut quand même en prendre conscience, les économistes ne sont jamais neutres, et c'est ainsi que Ricardo écrivait à Malthus en 1820 « L'économie politique est selon vous une enquête sur la nature et les causes de la richesse. J'estime au contraire qu'elle doit être définie comme une enquête sur la distribution. » Qu'est-ce donc qu'une politique qui renoncerait à gouverner, et ce au prix d'une économie qui ne serait plus le bon ordre, un bon ordre dans la gestion des ressources, ou une enquête sur la distribution, ou une science de la bonne répartition, mais qui se résume à être la perpétuation indéfinie de mécanismes dont on sait aujourd'hui qu'ils mènent au dépassement des limites naturelles et mettent en danger la survie même des civilisations humaines, pour pas dire l'écosystème. Refuser la réforme d'un paradigme d'origine humaine qui se révèle défectueux ou trompeur, c'est donc renoncer pour partie à la vocation politique de l'homme en société, qui est la délibération normative en vue de l'autonomie collective. Il me semble donc que ce n'est pas du paternalisme qu'on voit là, tout au plus pourrait être un paternalisme libéral, pour reprendre l'expression de Béal au sujet de John Stuart Mill, mais c'est peut-être tout simplement renouer avec une sorte de sagesse pratique qui est quand même présentée depuis Aristote et sa Phronesis comme la vertu politique par excellence. Et donc, organiser et gouverner à nouveau le monde humain comme un oikos, en réunifiant dans cet oikos l'humanité et l'écosystème planétaire où elle évolue, dans un souci non ethnocentrique et non présentéocentrique de durabilité. Je pense que je vous ai peut-être déjà assommé, non ?
Non, mais si tu peux aussi le garder pour lui, encore 5 minutes.
Allez, je conclue et je vous laisserai ensuite poser des questions. Pour conclure donc, il y a urgence de cette prise de conscience, urgence de l'abandon de cadres idéologiques antérieurs face à une réalité inédite et globale. Et de John Stuart Mill aux membres du CACI que je mentionnais, les avocats d'une transition délibérée et concertée vers un état stationnaire de l'économie cherchent toujours à rendre claire la séparation qui le distingue de la stagnation, au même titre qu'il faut séparer ce qui sépare, la distance entre croissance des richesses et amélioration réelle de la condition humaine. Tous partagent la conviction qu'un état stationnaire de l'économie non seulement serait compatible avec le développement humain, ne signerait pas le début d'un enlisement moral ou culturel de l'humanité, mais encore peut s'avérer, et s'avérera certainement, le cadre le plus propice à l'exploitation de tous les potentiels de l'humanité. L'homme est indéfiniment perfectible, on le sait au moins depuis Rousseau, et ce sont les conditions de possibilité de sa perfectibilité, en vue de son bonheur, qu'il s'agit de garantir. Aujourd'hui, alors que la situation d'ajustement forcé que les économistes classiques peinaient à envisager et donc n'appréhendaient que sous l'angle purement théorique, s'avère en passe de se réaliser prématurément, les promoteurs actuels de la transition délibérée de nos sociétés vers un état stationnaire ne prônent pas le retour à un âge d'or perdu. Ce ne sont pas des pessimistes, romantiques, réactionnaires qui se réfugient dans l'utopie nostalgique d'un comment dire, d'un paradis terrestre qui nous serait à jamais interdit. Et je réponds ce faisant à l'auteur, enfin à Stéphane François, qui a écrit un article, qui a écrit un ouvrage dévolu à ramener l'écologie à une utopie décadente. Mais ces chercheurs se fondent sur les dernières avancées des sciences naturelles et humaines pour à la fois prendre la mesure des problèmes et proposer des solutions. Certes, de plus en plus difficiles à mettre en œuvre à mesure que nous nous enlisons dans la crise et donc dans l'urgence. Mais les promoteurs actuels de l'État stationnaire ne sont ni pessimistes ni réactionnaires. Ils croient au progrès. Ils invitent en revanche à nous en donner les moyens. Et ceux-ci peuvent et doivent être de manière combinée économique, politique, scientifique, technique et moraux. Donc, in fine, l'aspiration à la transition vers un État économique stationnaire s'avère assez dure à classer, assez dure à étiqueter, et c'est, je crois, ce qui fait sa force. À la fois libérale, puisqu'il s'agit de préserver ou de promouvoir la liberté individuelle et d'agir dans le cadre démocratique décentralisé sans renoncer à tout mécanisme de marché tant qu'il se montre utile et non autoritaire. Socialiste, puisqu'elle vise à une meilleure répartition des richesses et à la préservation de celles-ci pour les générations futures. Et puis, un peu conservatrice, en tant qu'elle vise à conserver un patrimoine commun et à recentrer le bonheur humain autour de la culture de biens immatériels, des biens illimités et non rivaux. Elle ne semble donc pas encourager cette perspective de l'État stationnaire, la victoire d'une faction idéologique sur une autre. Elle me semble tout simplement appelée, face à un péril écologique de plus en plus avéré, à une reprise en main de l'humanité par elle-même, fût-ce maintenant au pied du mur. Je vous remercie.